VOA Afrique, le monde aujourd'hui, à Washington.
Bonjour à toutes et à tous, le monde aujourd'hui, VOA Afrique, édition du vendredi 11 août 2023. En direct de Washington, Rosine Munezero, pour commencer les titres. Des chefs d'état-major de la CEDEAO se réunissent demain à Accra, au Ghana, deux jours après le feu vert donné par leurs dirigeants à un éventuel usage de la force pour rétablir le président Mohamed Bazoum. Au Burkina Faso, les militaires au pouvoir suspendent jusqu'à nouvel ordre l'une des stations de radio les plus populaires du pays. Au Soudan, plusieurs quartiers de la capitale sont actuellement sous le contrôle des forces de soutien rapide, avec des affrontements signalés également dans d'autres régions de Khartoum.
Le Khartoum Nord et Omdurman ne sont plus lieux de combat, mais ils sont lieux de bombardements aériens. Par exemple, mon voisin direct est mort il y a 15 jours suite à une frappe aérienne.
Reportage à suivre dans la partie magazine. 755 migrants ayant effectué la périlleuse traversée vers les côtes anglaises ont été repérés jeudi, un record journalier depuis le début de l'année, selon le ministère britannique de l'Intérieur. Ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Echo. Pour l'instant, le journal. Des chefs d'état-major de la CEDEAO vont se réunir à Accra, au Ghana, demain, deux jours après le feu vert donné par leurs dirigeants à un éventuel usage de la force pour rétablir le président Mohamed Bazoum, renversé par le putsch du 26 juillet au Niger. Le régime militaire de Niamey n'a pas encore réagi à cette décision. Le point avec Jacques Aristide.
Les chefs d'état-major de la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest sont appelés à faire part des meilleures options quant à la décision de ce bloc régional d'activer et de déployer la force en attente. Pour l'heure, aucun calendrier ni modalité n'ont été dévoilés quant à l'usage possible de la force armée. Le président ivoirien Alassane Ouattara a lui promis d'envoyer jusqu'à un peu plus d'un millier de soldats comme contribution à la force qui, selon lui, devrait pouvoir intervenir dans les plus brefs délais. Des troupes nigérianes et béninoises doivent également la composer, a-t-il dit. Lors du sommet d'Abuja hier, la CEDEAO a toutefois réaffirmé son espoir d'une résolution par la voie diplomatique. Les décisions de l'organisation ont reçu le plein soutien de Paris. Pour sa part, Washington, par la voix de son chef de la diplomatie, Anthony Blinken, dit appuyer le leadership et le travail de la CEDEAO pour le retour à l'ordre constitutionnel au Niger, sans toutefois approuver explicitement l'éventuel déploiement de la force ouest-africaine. Et plus de deux semaines après le coup d'État, les craintes grandissent quant au sort réservé au président Mohamed Bazoum. L'Union africaine, l'Union européenne et l'ONG Human Rights Watch ont rejoint d'autres voix comme celle de l'ONU pour exprimer leur profonde inquiétude face à la détérioration des conditions de détention du chef de l'État déchu, toujours retenu, prisonnier avec sa famille.
L'ex-président sud-africain Jacob Zuma s'est présenté brièvement vendredi en prison avant d'être relâché aussitôt dans le cadre de remises de peine annoncées le jour même par le gouvernement. Ces remises de peine de condamnés non violents ont été approuvées par le président Cyril Ramaphosa pour soulager la surpopulation carcérale. Le mois dernier, la plus haute cour sud-africaine avait réitéré que M. Zuma devrait retourner en prison pour finir de purger une peine de 15 mois pour outrage, rejetant un appel qui demandait qu'il en soit épargné. Le gouvernement guinéen a signé avec ses partenaires de nouveaux accords pour la construction d'infrastructures portuaires et ferroviaires en vue de l'exploitation de l'immense gisement de fer de Simandou dans le sud-est du pays, selon un communiqué transmis vendredi par l'une des entreprises en charge du projet. Ces accords prévoient la construction d'un chemin de fer d'environ 670 km pour relier le corridor minier et à un port minéralier sur la côte guinéenne au sud de Conakry. Ils doivent être terminés en décembre 2024 et la première production commerciale devrait voir le jour au plus tard le 31 mars 2025. Les militaires au pouvoir au Burkina Faso ont suspendu jusqu'à nouvel ordre l'une des stations de radio les plus populaires du pays après la diffusion d'une interview jugée insultante pour les nouveaux chefs militaires du Niger, Alexandrine Ologno.
Cette décision fait suite à la diffusion sur Radio Omega d'un entretien lors de l'émission L'invité de la rédaction avec le porte-parole d'un mouvement récemment créé au Niger qui souhaite rétablir le président Mohamed Bazoum. Selon le gouvernement burkinabé, l'organisation d'Ousmane Abdul Moumouni milite clairement pour la violence et la guerre contre le peuple souverain du Niger. Radio Omega, filiale du groupe Omega Media, a dénoncé une décision injuste et sans fondement et va user de toutes les voies de recours. La radio affirme également que sa suspension survient après de nombreuses menaces de mort à l'endroit de dirigeants et journalistes de Radio Omega de la part de personnes se présentant comme des soutiens du pouvoir. Les autorités de transition du Burkina Faso, arrivées au pouvoir par un coup d'État en septembre 2022, ont très rapidement affiché leur solidarité aux militaires qui ont pris le pouvoir au Niger. Plusieurs médias ont été suspendus au Burkina Faso ces derniers mois, notamment les médias français, LCI, RFI et France 24.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le ministre américain de la Justice a annoncé vendredi nommer un procureur spécial pour enquêter sur le fils du président Joe Biden, Hunter, visé avec insistance par les républicains qui ont toutefois aussitôt crié à la poudre aux yeux. Le ministre Merrick Garland n'a donné aucun détail sur le contenu de l'enquête du nouveau procureur spécial. L'annonce intervient alors que Joe Biden est en campagne pour un deuxième mandat et la Maison-Blanche n'a pas réagi à la nouvelle. Les pompiers continuent ce vendredi de combattre les feux de forêt qui ont tué au moins 55 personnes sur l'île hawaïenne de Maui, rasant une bonne partie de cette ville historique située en bord de mer. Les précisions avec Mohamedou Oumfa.
Des équipes de recherche et de sauvetage accompagnées de chiens renifleurs continuaient de se déployer pour rechercher les victimes de ce que le gouverneur Josh Green a qualifié de probablement la plus grande catastrophe naturelle de l'histoire de l'État d'Hawaï. « Ce que nous avons vu aujourd'hui est catastrophique », a déclaré M. Green après avoir visité Lahaina, une ville d'environ 12 000 habitants qui a servi de capitale au royaume hawaïen au début du 19e siècle. Les autorités locales du comté de Maui ont fait état de 55 morts tard jeudi, mais le bilan pourrait largement excéder les 60 victimes, a affirmé le gouverneur Josh Green, qui a précisé que Lahaina est à 80% détruite. Des milliers d'habitants et de touristes ont déjà été évacués des zones sinistrées dans l'archipel. Ces incendies ravageurs interviennent au milieu d'un été marqué par une série d'événements météorologiques extrêmes partout sur la planète. Les feux se sont propagés tellement rapidement que la population a été prise de court. Une centaine d'habitants se sont jetés à la mer pour échapper aux flammes, selon les gardes-côtes.
Au moins 26 soldats syriens ont été tués dans une attaque du groupe djihadiste État islamique dans une zone désertique de l'est de la Syrie. Il s'agit de la troisième attaque et la plus meurtrière du genre depuis le début du mois d'août, a indiqué vendredi une ONG. Les précisions de John Lyndon.
Des éléments de l'État islamique ont tendu jeudi soir une embuscade à un quart de l'armée syrienne qui transportait des soldats dans l'est de la province de Deir ez-Zor, les ciblant à l'aide d'armes légères et moyennes, a indiqué l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Selon cette ONG, basée au Royaume-Uni, mais qui dispose d'un vaste réseau de sources en Syrie, au moins 26 soldats ont été tués et 10 blessés, alors que des dizaines d'autres soldats sont portés disparus. Une source militaire syrienne, citée par l'agence officielle SANA, a de son côté affirmé qu'un groupe terroriste a visé un car militaire jeudi soir, faisant des morts et des blessés, sans en préciser le nombre. L'État islamique a intensifié récemment ses attaques en Syrie, notamment depuis les zones désertiques où ses combattants sont repliés après la perte en 2019 de vastes territoires qu'ils contrôlaient dans ce pays. 4 de ses chefs successifs ont été tués depuis lors.
Plus de 100 000 migrants ont traversé illégalement la Manche à bord de petites embarcations depuis 2018, malgré la fermeté affichée par le gouvernement britannique qui multiplie les déboires dans sa politique contre l'immigration clandestine. Jeudi, 755 migrants ayant effectué la périlleuse traversée vers les côtes anglaises ont été repérés, un record journalier depuis le début de l'année selon le ministère britannique de l'Intérieur. Une nouvelle loi entrée en vigueur en juillet, dénoncée jusqu'à l'ONU, interdit désormais aux migrants arrivés illégalement sur le sol britannique de demander l'asile au Royaume-Uni. Elle prévoit leur expulsion vers leur pays ou des pays tiers comme le Rwanda, projet bloqué en l'état par la justice. Les forces israéliennes ont tué un Palestinien durant une opération nocturne dans le nord de la Cisjordanie occupée, a annoncé vendredi sa famille. Voilà pour le journal. Vous suivez VOA Afrique. À présent, la Minute Éco avec John Lindon.
Le Cameroun annonce de vastes chantiers de logements sociaux dès 2024. Selon le site ecomatin.net, ces travaux devraient permettre de combler progressivement le déficit criard d'environ 2,5 millions en logements sociaux. Depuis sa création il y a 71 ans, la Société immobilière du Cameroun, société à capitaux publics, n'a construit que 11 000 logements sociaux. La consommation de pétrole s'achemine vers un record absolu. L'Agence internationale de l'énergie revoit à la hausse ses prévisions de croissance de la demande mondiale en 2023. Pour l'ensemble de l'année, la demande globale d'or noir devrait augmenter de 2,2 millions de barils par jour par rapport à 2022 pour atteindre 102,2 millions de barils en 2023, la Chine représentant plus de 70% de la croissance de cette consommation, précise l'agence. Selon un sondage Reuters Ipsos, de nombreux travailleurs aux États-Unis se tournent vers ChatGPT pour les aider à effectuer des tâches de base. Quelque 28% des personnes interrogées entre le 11 et le 17 juillet ont déclaré utiliser régulièrement ChatGPT au travail, tandis que 22% seulement ont indiqué que leur employeur autorisait explicitement l'utilisation de tels outils externes. Plusieurs entreprises à travers le monde réfléchissent toujours à la meilleure façon d'utiliser ChatGPT.
Passons maintenant à la page des sports présentée ce soir par Élisée Oumpatine. Bonsoir Élisée.
Oui, bonsoir Rosine et bonsoir à tous.
On démarre par le Mali où le président de la Fédération de football est sous mandat de dépôt.
Oui, Mamoutou Touré Dibavieux a été incarcéré pour atteinte au bien public par un tribunal de Bamako. Pour rappel, il est en lice pour un nouveau mandat à la tête de la Fédération malienne de football et les élections auront lieu à la fin de ce mois d'août. Pour plus de précisions, on retrouve notre correspondant sur place à Bamako, Siaka Traoré.
Le président de la Fédération malienne de football, Mamoutou Touré, communément appelé Bavieux, a été incarcéré avant-hier, mercredi 9 août 2023, à la maison centrale d'arrêt de Bamako. Joint au téléphone, un des proches collaborateurs de Bavieux a indiqué que son incarcération n'entrave en rien le processus électoral de la présidence de la FEMAFOOT dont l'élection est prévue pour le 29 août prochain. Le mandat de dépôt contre le président Mamoutou Touré n'est pas lié à la gestion du football au Mali, a-t-il poursuivi. Candidat à sa propre succession, Mamoutou Touré a même lancé sa campagne électorale le mardi dernier. Il est le seul candidat en lice pour briguer la présidence de la FEMAFOOT, étant donné que la candidature de son principal challenger, Salah Ababi, a été invalidée par une commission indépendante de la fédération pour non-conformité au texte. L'information relative au mandat de dépôt contre Bavieux a fait le tour des réseaux sociaux mercredi. Mamoutou Touré, faut-il le noter, a été directeur administratif et financier de l'Assemblée nationale du Mali sous la présidence de Isaac Sidibé. C'était sous le régime de feu le président Ibrahim Boubacar Keïta. Et selon beaucoup d'informations, l'atteinte au bien public serait le motif pour lequel Mamoutou Touré est incarcéré. Siaka Traoré Bamako pour VOA Afrique.
Sur le terrain, à présent, la suite du mondial féminin en Australie et en Nouvelle-Zélande.
Et on connaît la première affiche des demi-finales. L'Espagne, vainqueur 2-1 des Pays-Bas, jouera la Suède tombeuse du Japon sur le même score. Les Espagnols, venus à ce niveau de la compétition pour la première fois, affronteront mardi prochain les Suédoises qui ont réussi le tour de force d'avoir éliminé les deux dernières sélections championnes du monde. Les États-Unis, double tenant du titre, puis le Japon sacré en 2011. On suivra demain les deux derniers cas avec deux belles affiches. France, Australie et Angleterre-Colombie.
Merci Élisée.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Rosine Monezello de retour avec vous pour les dossiers du jour. Réunis en sommet à Abuja, au Nigeria, hier, les dirigeants de la CDAO ont décidé de déployer une force en attente pour rétablir le président Mohamed Bazoum, renversé par un coup d'État au Niger. Mais aucun calendrier ni modalité n'ont été dévoilés quant à l'usage possible de la force armée pour une réaction. Jacques Aristide a joint Paul Oula, analyste sécuritaire et politique basé à Bamako, au Mali.
Je pense que l'intervention militaire n'est pas une solution aujourd'hui adaptée dans le contexte sécuritaire assez très précaire au Niger et dans tout le Sahel. Si vous avez de voir, lorsqu'on s'entêtera à faire une intervention militaire au Niger, les conséquences seront énormes. Les retombées en termes de pertes en vies humaines seront très drastiques. Et aujourd'hui, l'armée fait face à des groupes terroristes qui sont en train de prendre presque toutes les villes aujourd'hui. On essaie de voir, avant-hier, il y a eu beaucoup d'attaques provenant des groupes terroristes dans la zone des trois frontières, pratiquement dans la zone de Melaka et aussi à l'intérieur du Niger.
Lors du sommet d'Abuja hier, la CDAO a toutefois réaffirmé son espoir d'une résolution par la voie diplomatique. Mais avec le Mali et le Burkina Faso qui voient une éventuelle intervention armée au Niger comme une déclaration de guerre, comment la CDAO et les autres acteurs peuvent-ils résoudre la crise de manière pacifique et éviter un conflit régional élargi?
Oui, je pense que la CEDEAO doit directement choisir une personne qui est un peu crédible dans la zone du Sahel. C'est-à-dire en choisissant une personne qui vient des pays tels que la Mauritanie ou l'Algérie, qui ne sont pas membres de la CEDEAO, c'est vrai, mais ces pays entretiennent de très bonnes relations avec le Niger, avec le Mali, avec le Burkina. Alors si on prend une personne là-bas pour faire la médiation entre la CEDEAO et ces trois pays-là, je pense que les pions pourront bouger. Mais si on prend une autre personne qui vient du Nigeria, de la Côte d'Ivoire ou du Sénégal, alors ça sera très difficile parce que les relations avec ces trois pays ne sont pas très bien appréciées aujourd'hui. Parce qu'on pense réellement que ces pays font la politique française en Afrique de l'Ouest.
L'ONU fustige les conditions de détention apparemment inhumaines du président déchu, Mohamed Bazoum, et de sa famille. La junte de Niamey doit-elle dès maintenant rassurer la communauté internationale au sujet de ses profondes inquiétudes?
Oui, je pense qu'aujourd'hui, réellement, Bazoum est détenu. Le Conseil de sécurité a jugé nécessaire à ce qu'on le libère. Je pense que c'est une très bonne chose. Mais Bazoum, on pourra le libérer lorsque on va surseoir l'intervention militaire. Parce que l'intervention militaire va coûter énormément au Niger. Donc je pense très sincèrement aujourd'hui qu'il faut pousser les pions vers la voie diplomatique pour obtenir la libération de M. Bazoum. C'est la seule condition sine qua non.
Paul Oula, analyste sécuritaire et politique, était en ligne de Bamako.
Vous êtes bien sur VOA Afrique, à Niamey au Niger, sur le 102.5 FM, 24h sur 24.
Au Soudan, plusieurs quartiers de la capitale sont actuellement sous le contrôle des forces de soutien rapide avec des affrontements signalés également dans d'autres régions de Khartoum où des cadavres sont laissés abandonnés dans les rues, augmentant ainsi le risque de propagation de maladies. Eric Manilakiza a joint à Khartoum Salah Mohamed El Hassan Osman, journaliste et résident dans la capitale soudanaise. Suivez son témoignage.
En fait, les cadavres sont dans les zones de combat. Par exemple, ici, Kalakla,
tous les quartiers du sud, Khartoum, comme Mayo, Kalakla, Abu Adam, sont devenus sous contrôle des forces de soutien rapide. Alors il n'y a plus de combat. Le combat maintenant se concentre autour du campement du corps blindé de l'armée soudanaise, où il y avait des troupes importantes du gouvernement, de l'armée gouvernementale, assiégées par les troupes de forces de soutien rapide. Et c'est maintenant le lieu principal de combat. Ainsi qu'Amdurman, autour du corps d'ingénieurs de l'armée soudanaise, et à Bahri, autour du commandement général. Mais les quartiers périphériques de Sud Khartoum, de Khartoum Nord et d'Amdurman, ne sont plus lieux de combat, mais sont lieux de bombardement aérien. Par exemple, mon voisin direct est mort il y a 15 jours, suite à une frappe aérienne où le Nij de fabrication soviétique a lancé une roquette sur la rue principale du quartier Kalakla. Il a été blessé et il est mort le lendemain après souffrir une journée entière. C'est mon voisin direct, le propriétaire de ma maison. Les hôpitaux sont fermés, il n'y a que deux hôpitaux au sud de Khartoum qui fonctionnent, un seul hôpital en Amdurman et un seul hôpital à Khartoum Bahri, qu'on appelle Khartoum Nord, et puis école fermée, banque toujours en faillite, fermée, système bancaire électronique ne fonctionne plus.
Donc dans votre quartier là où vous vivez, c'est un quartier occupé par les forces de soutien rapide, c'est ça?
Tous les quartiers du sud de Khartoum sont sous le contrôle des forces de soutien rapide. Ils ont établi des points de contrôle, ils patrouillent les rues principales.
Est-ce que ces forces de soutien rapide, ils viennent vous voir dans vos ménages, chez vous? Qu'est-ce qu'ils vous racontent lorsque vous vous voyez, vous vous rencontrez?
Non, ils ne rentrent pas dans les maisons, ils contrôlent les gens dans les rues. Ils m'ont contrôlé une fois, ils m'ont demandé ma pièce d'identité, je l'ai montré et ils m'ont laissé passer. Mais ils font des patrouilles dans les rues principales et même dans les rues qui ne sont pas principales pour, comme ils proposent, garder la sécurité et tout. Mais il n'y a pas de sécurité. Les gens qui font le pillage sont partout. Ce sont des gangs organisés.
Salah Mohamed El Hassan Osman, journaliste et résident dans la capitale soudanaise.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com, à tout de suite.
Le gouvernement kényan crée des centres d'accueil pour les victimes de la traite des êtres humains. Les autorités affirment que l'objectif est d'aider les victimes à se remettre de leurs expériences traumatisantes, à reconstruire leur vie et à poursuivre les trafiquants. Le reportage de Victoria Amunga à Nairobi, récit Alexandrine Ologno.
Mercy Njeru raconte que ses deux tentatives de trouver du travail au Moyen-Orient en 2014 et 2020 ont tourné à l'horreur. Les deux fois, on lui avait promis un travail dans un bureau, mais elle s'est retrouvée employée de maison chez des particuliers où elle a été battue et surchargée de travail.
C'est quoi ça? Si je ne terminais pas un travail, il me battait. Ou par exemple, lorsque le bébé pleurait et le dérangeait et que je n'entendais pas le bébé pleurer parce que je faisais le ménage ailleurs, lui et ses frères venaient et me battaient.
Njeru a réussi à s'en sortir avec l'aide d'un groupe d'aide appelé Heart Kenya. Mais selon les autorités, elle est une exception. De nombreuses victimes de la traite des êtres humains restent piégées. Le gouvernement kenyan est en train de mettre en place des refuges pour les victimes. Les autorités affirment que de nombreux survivants n'ont pas d'endroit où vivre, ce qui rend difficile l'aide et l'enquête sur les trafiquants. Chem Nyakutu, secrétaire à la lutte contre la traite des êtres humains, explique.
Nous devons les garder en lieu sûr pendant que les enquêtes se poursuivent et leur permettre de se réinsérer dans la société. Nous avons donc des spécialistes dans tous les secteurs pour les aider à prendre confiance en eux afin qu'ils puissent s'intégrer dans la société.
Selon le gouvernement, de nombreux Kenyans sont attirés par la promesse d'emploi en ligne et envoyés principalement au Moyen-Orient et dans des pays d'Extrême-Orient tels que le Laos, la Malaisie et la Thaïlande. L'Agence des Nations Unies pour les réfugiés affirme que les protections pour les victimes de traite humaine font cruellement défaut, en particulier en Afrique. Certaines d'entre elles subissent des abus multiples et répétés, voire meurent. Des organisations non gouvernementales telles que RAD Kenya s'efforcent de les aider. Radek Malinowski est le directeur exécutif du groupe.
Nous les aidons soit à revenir dans le pays, soit à obtenir différentes formes d'assistance directe, telles que l'aide juridique, la thérapie, les interventions médicales ou à redémarrer leur projet.
Njeru étudie maintenant pour devenir coiffeuse. Les groupes d'aide et les représentants du gouvernement disent qu'ils espèrent qu'en travaillant ensemble, davantage de victimes de la traite humaine pourront être sauvées et davantage de trafiquants poursuivis en justice.
Au Burkina Faso, c'est une série bien connue, trois hommes en village et trois femmes en village. La série existe depuis 2005. Elle prône des messages de paix, de tolérance et de vivre ensemble. Toute l'histoire se déroule dans un village dénommé Kikideni, qui existe en vrai dans l'est du pays. De Ouagadougou, notre correspondant Lamine Traoré s'est rendu sur le plateau de tournage.
À une vingtaine de kilomètres de la capitale burkinabé, la série Bienvenue à Kikideni se tourne dans ce village. Sur le plateau, techniciens et comédiens sont à la tâche. Des séquences en tournage. Terminé pour cette séquence, changement de décor. Au marché du village, ici, aussi, plusieurs séquences sont mises en boîte. C'est quoi Bienvenue à Kikideni?
C'est sur des petites rivalités internes de village, mais à une échelle plus grande, c'est au niveau du village, c'est au niveau de la région, de la nation et même des continents. Il faut qu'on trouve le moyen de vivre ensemble, hein, sinon c'est pas la peine.
La série, au fil des années, a gagné en maturité. C'est le curé du village dans le film qui le dit.
Je retiens que la série s'est beaucoup enrichie des récents événements, de ce qu'on vit aujourd'hui, la question du vivre ensemble qui est mise à mal. Nous ne sommes pas en dehors de la situation, on n'est pas en dehors du quotidien de tous. On est bien implanté dans ce pays, on connaît les réalités de ce pays.
Kikideni est un village dans l'est du pays. La situation sécuritaire ne favorise pas le tournage dans la localité. Cette comédienne joue la nièce du chef du village dans la série.
Ça a été délocalisé parce que notre pays traverse une situation assez difficile. Mais ce n'est pas une situation qui doit nous empêcher de continuer à vivre et d'espérer de retrouver notre pays comme on l'a connu.
C'est une grosse logistique et de dernière génération qui est déployée pour le tournage.
Sur ce plateau, nous avons opté de tourner en multicaméra, ce qui veut dire que nous tournons avec deux caméras en même temps, qui nous permettent d'aller plus vite et qui nous permet aussi de gagner beaucoup en technique, c'est-à-dire nous rattrapons beaucoup ce qu'on appelle les raccords. Au niveau du découpage, ça, on va plus vite. Nous tournons vraiment dans les conditions techniques internationales.
C'est le travail de Sanata, si tu permets.
Tantôt devant la caméra et tantôt derrière. Cette dame est la cheville ouvrière du film.
Et Bienvenue à Kikideni traite de thèmes différents dont l'insécurité, la cohésion sociale, le vivre ensemble. Je pense que c'est aussi notre contribution à la résilience, on va dire.
Merci, merci, fin de journée.
Dans quelques semaines, le tournage de Bienvenue à Kiki Denny prend fin ici et la réalisatrice annonce que la série sera prête en 2024 pour le grand public. Lamine Traoré pour VOA Afrique, Ouagadougou.
Le Monde aujourd'hui, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Rosine Mounezero était à la présentation, à la mise en onde. Lionel Nanagarima, un grand merci à la rédaction et à toute l'équipe de production. Rendez-vous sur notre site internet voafrique.com et sur nos pages Facebook, YouTube, Twitter et Instagram pour un suivi de l'actualité 24h sur 24. Je vous souhaite une excellente soirée à l'écoute de nos programmes.